chronique de l'Amérique trumpienne ou chronique de l'entropie. La chronique du 3 mai 2025, rediffusée le 7 mai, pose simplement ceci. Se permettre de parler aussi simplement et de façon aussi vulnérable que possible. Qu'est-ce que se permettre de parler? Pourquoi est-ce si important et si précieux? Depuis septembre 2024, je cite Olivier Morel, « Je ne me suis pas juste exprimé, mais je me suis toujours et toujours en tremblant autorisé à parler et m'exprimer. Cette structure est importante, se permettre de parler est un bien aussi résistant et retors aussi difficile à contrôler qu'il est facile à supprimer. S'il est facile de faire taire, nous nous permettons aussi de parler. C'est du « nous » qu'il s'agit. Il s'agit de passer de « je » au « nous ». Aussi, le sujet de la chronique cette semaine, la dernière chronique de la saison, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, mais le seul fait qu'elle dise, le fait que je me permette de faire la chronique. Pourquoi ce simple fait est si important aujourd'hui, aux États-Unis? Sur ce point, c'est un historien, une fois encore, une fois de plus, qui va nous répondre. Un historien professeur à Yale, auteur d'un best-seller célèbre aux États-Unis, paru en 2017, sous la première présidence de Donald Trump, et je cite le titre de cet ouvrage, « De la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle ». Ouvrage qui a été publié première fois en anglais en 2017 et publié en français en 2022. Et ceci est la dernière chronique de la saison d'Olivier Morel, universitaire franco-américaine, qu'on va pouvoir écouter ce mercredi 7 mai 2025 et qui sera rediffusée le courant de l'été. Les chroniques de l'Amérique trumpienne d'Olivier Morel ou les faits âgés de Donald Ier, roi de l'entropie. Alors je vous rassure, vous retrouverez Olivier Morel d'ici septembre à la rentrée des classes. Voilà, il fait une grande pause pour l'été. Radio Galère 14.4 de la bande FM marseillaise. Tout de suite, les chroniques de l'Amérique trumpienne.
C'était sous le front porch, ce qu'on appelle un front porch dans les maisons américaines, cette architecture très typique du fameux bungalow américain qui est très répandu dans le Midwest où je me trouve. On en voit aussi bien sûr sur la côte est des États-Unis et un peu au sud, mais je connais beaucoup moins le sud des États-Unis. C'est une architecture très classique et très typique. Presque toutes les maisons ont un front porch, c'est-à-dire ce sont des espèces de grandes terrasses couvertes qui sont à l'entrée sur la façade extérieure des maisons américaines, ouverts donc sur la rue, sur l'espace public, hein, et qui permettent d'être protégés des intempéries. Parce que dans le Midwest, en particulier, là où je me trouve, la saison estivale est très brutale. Elle commence très tardivement, au printemps, à la fin du printemps, à peu près au début du mois de mai. En général, c'est au cours de la dernière semaine d'avril, première semaine de mai. Et c'est marqué par des épisodes climatiques assez violents, de grands vents. On entend parler beaucoup de tornades à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle dans ces maisons américaines du Midwest, il y a aussi des caves. Et que c'est dans la cave qu'on se réfugie lorsqu'il y a une menace de tornade. Tout ça est un protocole très établi et très rigoureux. Il y a des alertes qui sont envoyées sur les téléphones, sur les radios publiques, etc. Bref, le front porch, la terrasse à l'américaine, du bungalow américain, c'est là que j'étais lorsque, début septembre, Eric Lebreu, de Radio Galère, m'a proposé de faire ses chroniques. Eh bien voilà, on a accompli un cycle qui me ramène à nouveau au front porch après l'été 2024, l'automne qui a vu l'élection de Donald Trump, l'inauguration qui a lieu au cœur de l'hiver le 20 janvier 2025 et maintenant retour à l'été, retour sous le front porch. Souvent, je me suis demandé pourquoi et comment et s'il fallait seulement que je me permette, que je m'autorise, que je me laisse aller à l'idée de faire ces chroniques. Lorsqu'Eric m'a demandé de le faire, je l'ai fait sans véritable calcul. En vérité, des calculs, il y en avait. Il y en avait de façon très profonde et très inconsciente, parce que je me suis toujours demandé pourquoi, je me suis demandé quoi, que dire, mais aussi j'ai toujours tremblé au moment de le faire. Je dois avouer maintenant que j'ai toujours tremblé au moment d'enregistrer ces chroniques. Et à mesure que nous avancions dans la présidence de Donald Trump à partir du 20 janvier 2025, je tremblais de plus en plus. Alors, sans analyser vraiment l'origine et la signification de ce tremblement, je vais donner un indice de cela. Ça tourne autour de précisément cette notion qui m'est arrivée en langue anglaise. What it means to allow yourself. C'est une expression très américaine. Allow yourself to do something. Ça veut dire Autorisez-vous à faire quelque chose. Donnez-vous. En fait, la notion, elle est vraiment beaucoup plus compliquée et ancrée dans une notion de liberté. Donnez-vous, prenez la liberté. Ça veut dire aussi prenez le temps de faire quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis aussi, c'est très important que j'ai dit oui sans calcul. J'ai dit oui à Eric sans calculer en particulier les risques. Je vais revenir sur ces risques avant la fin de l'émission aujourd'hui, avant la fin de cette chronique. Donc c'est une sorte de calcul sans calcul. C'est-à-dire que je n'ai pas calculé au moment de dire oui, et j'ai calculé évidemment à chaque fois au moment où je me suis exprimé, comme je le fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le fais en rendant explicite cette notion de calcul sans calcul, cette impossibilité du calcul, ce fait de céder, de dire oui, de céder à la tentation d'une certaine façon, en sachant qu'on ne sait jamais ce qu'on signe. Ça, c'est une phrase qui m'a été donnée par mon ami, le philosophe Jacques Derrida. Au moment où je signais un document, il m'a dit, avec un sourire, cette phrase, « Vous savez, Olivier, on ne sait jamais ce qu'on signe. » C'est une phrase profondément vraie. C'est-à-dire que à chaque fois que je me suis lancé, j'ai su, je savais que je faisais deux gestes incalculables. Le premier était de m'exprimer, et de m'exprimer en connaissant la possibilité du risque qu'il y a à le faire. Le risque de se tromper. Je n'enregistre jamais ces chroniques en lisant. Je les improvise à moitié, c'est-à-dire que j'ai une sorte de plan et de conducteur, mais je ne voulais pas que ça soit lu, je voulais que ça soit spontané et une sorte de parole libre, donner liberté à l'expression et cultiver quelque chose autour de la liberté de l'expression et peut-être aussi de la liberté d'expression. Donc du calcul au cœur, ici, du sans-calcul. Mais évidemment, il y avait la tentation de le faire, puisque c'est ce à quoi on cède à la tentation, comme disait Oscar Wilde, l'écrivain. Je peux résister à tout sauf à la tentation. Je n'ai pas résisté à la tentation de dire oui, oui à Eric, oui à Radio Galère, radio à laquelle je suis extrêmement attaché, et de dire oui sans savoir à quoi je disais oui, mais disant oui peut-être même à la notion d'approbation, de dire oui à la vie. Alors j'ai fait tout ceci en while allowing myself, en me permettant. Et maintenant que j'y pense, après avoir fait tout ce cycle au cours de ce qui est ma dernière chronique de la saison, en cette fin du mois d'avril, début du mois de mai 2025, je me dis que la liberté, c'est ça. La liberté, c'est s'exprimer sans calcul, y compris dans la stratégie bien pesée et bien calculée qui consiste à le faire. À partir du moment où on le fait, il n'y a plus de calcul. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de se permettre, c'est de prendre la liberté. La liberté, c'est ce qu'on prend. Justement, ça se prend, ça se saisit. On ne peut pas se laisser imposer la liberté, ça serait dans la contradiction qu'on le fait. La liberté, non, c'est quelque chose qui s'adopte, qui se prend et qui est le résultat d'une décision, d'un saut volontaire. Il y a un saltus, comme on dit en latin, c'est-à-dire on bascule. Et une fois qu'on a pris la liberté de s'exprimer, il n'y a pas de point de retour. Ce qui est dit pour toujours. Et si cela menace un pouvoir en place, une autorité, si cela menace un oppresseur, eh bien c'est trop tard. Une fois qu'on a pris cette liberté, la liberté est prise et c'est irréversible. Et c'est, je suppose, ce qui inquiète les pouvoirs constitués qui basculent, qui dérivent vers l'autoritarisme. On peut opprimer les individus, mais on ne peut pas réduire la liberté. Alors évidemment, je parle de tout cela en cette période qui marque les 100 jours de la présidence de Donald Trump. Et comme on comprend, bien sûr, ma décision, c'est précisément de ne pas forcément parler des 100 jours de Donald Trump, puisqu'il y a des comptes rendus assez exhaustifs et assez denses qui sont apportés dans la plupart des médias au niveau mondial et bien sûr aussi aux États-Unis sur ce qu'il s'est passé depuis ces 100 jours. Par exemple, l'effondrement du dollar qui a perdu 10% de sa valeur, les marchés financiers qui ont perdu 10 à 15% de leur valeur, la recherche sur la santé, la recherche scientifique et médicale qui s'est effondrée, qui est passée de 2 milliards de dollars à moins de 1 milliard de dollars sous Donald Trump. Ça affecte beaucoup les universités. Or, je suis universitaire. Le fait que Donald Trump est le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis depuis plus de 50 ans, après 100 jours de pouvoir, après 100 jours placés à la Maison-Blanche, il y a seulement 42% des personnes personnes qui ont un avis favorable de Donald Trump aujourd'hui. Donc j'aurais pu parler de tout ça, mais une fois encore, je me trouve dans une situation qui est celle qui m'a déjà traversée à plusieurs reprises, si on se souvient de ces chroniques. Il m'est arrivé de parler de Robert Paxton, de Steven Levitsky et de bien d'autres. Eh bien, ils ont en commun tous d'être des historiens. Et bien sûr, d'être des historiens, notamment des historiens américains, tous multilingues. Paxton est un très célèbre historien de la France de Vichy. Il parle parfaitement français. Steven Levitsky est, lui, un historien des tendances autoritaires et des régimes politiques d'Amérique du Sud, ainsi que des tendances autoritaires en Amérique du Nord. Et l'historien dont je vais parler aujourd'hui, lui, parle 5 langues. Il parle notamment le russe et il est souvent cité pour avoir dit que « If you don't know Russian, you can't really know what you're missing. » Si vous ne connaissez pas le russe, vous ne savez pas ce que vous ratez. Fin de citation. Cet historien s'appelle Timothy Snyder. Et je voulais terminer cette chronique par Timothy Snyder, le travail de Timothy Snyder. Alors Timothy Snyder est un historien qui a 55 ans aujourd'hui et qui est à la tête d'une œuvre considérable, d'une œuvre qui a vraiment changé la manière dont on comprend l'histoire de l'Europe. Il a été attaché au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, de 1994 à 1995. Il a aussi travaillé à l'Institut des Sciences Humaines de Vienne, en Autriche, en 1996, avant de devenir professeur à l'université de Harvard, Harvard comme on dit en français. En 1997, il a aussi enseigné en Belgique, à Londres. Il est à la tête d'une œuvre considérable, je le disais, puisqu'il a écrit 15 livres, parmi lesquels était un livre d'histoire de la pensée politique. Un livre qui s'intéressait aux liens entre marxisme et nationalisme, s'intéressant particulièrement à un marxiste polonais et qui réfléchissait beaucoup au nationalisme, qui s'appelle Kazimierz Kallas-Kraus. Un très célèbre militant socialiste qui, en Pologne, à la fin du 19e siècle, s'était signalé par sa capacité à penser deux formes d'idéologie souvent impensées dans l'histoire du marxisme, à savoir le lien entre marxisme et nationalisme. C'est pour dire que Timothy Snyder entre dans le champ des études historiques par l'histoire de l'Europe et par l'histoire des basculements politiques qui se produisent en Europe à la fin du 19e siècle, et en particulier en Europe centrale et orientale. Il est spécialiste de la Pologne, initialement. Ce qui va d'ailleurs se signaler dans un autre de ses livres, publié en 2003, donc quelques années après son premier livre, publié en 98, autour de la construction et de la reconstruction nationale en Europe orientale et en Europe centrale, avec des études particulièrement encore sur la Pologne, l'Ukraine, la Lituanie et la Biélorussie. Donc assez rapidement, Timothy Snyder va aussi devenir un spécialiste de l'Ukraine, en particulier de l'Ukraine soviétique, sur laquelle il publie un livre. Il est aussi spécialiste de l'Autriche-Hongrie. Il a écrit un livre sur la famille des Habsbourg. Mais ce qui va vraiment le placer sur la carte des études historiques, c'est un maître-ouvrage qui s'appelle Bloodlands, c'est-à-dire les pays ensanglantés, pour traduire d'une façon assez littérale, qui est un livre publié en 2010 et qui m'a semblé reprendre les travaux, en tout cas les hypothèses d'un historien que j'avais aussi cité dans une de ses chroniques, et c'est Eric Hobsbawm. L'hypothèse d'Eric Hobsbawm, on s'en souvient peut-être, c'est qu'il y a un court 20e siècle. Il existe un court 20e siècle de ce que Eric Hobsbawm appelle la Grande Guerre civile européenne, qui s'étend de 1914 jusqu'à la fin de la guerre froide en 1989. Et donc on englobe le premier conflit mondial, la montée et l'installation du fascisme et du nazisme, l'installation de l'Union soviétique, la Deuxième Guerre mondiale et le génocide, la chute des régimes autoritaires fascistes en 1944-1945, et puis la montée de l'Union soviétique avec la guerre froide. Et le fait que, dans cette séquence historique de 1914 à 1989, donc une séquence qui dure à peu près 70 ans, 75 ans, nous avons ce qu'on appelle le court 20e siècle européen, qui est la séquence la plus violente de l'histoire humaine, probablement, et évidemment en particulier de l'histoire européenne. Alors ce qui est très intéressant avec le travail de Timothy Snyder, c'est qu'il va avoir, comme Eric Hobsbawm, cette tendance à casser les visions historiques traditionnelles qui consistent à reconstituer l'histoire du XXe siècle en particulier, à l'intérieur des traditions nationales. C'est-à-dire que dire, au fond, il y a une histoire de la France, une histoire de l'Italie, une histoire de l'Allemagne, et puis évidemment, chaque pays a sa langue, langue, sa singularité, son univers culturel, son type d'organisation politique, etc., etc. Mais au-delà de ça, il y a une grande question et qui est presque une question de sens, une question de signification, et je dirais presque une question de métaphysique historique, qui est de savoir comment il a pu être possible que 13 millions de vies soient éradiquées dans un temps si bref par la seule force de la violence politique. C'est ça la question qui intéresse Timothy Snyder lorsqu'il écrit ce livre Bloodlands, qui s'intéresse à l'histoire de l'Europe, et en particulier de l'Europe centrale et orientale, où ces 13 millions de morts vont être des millions de morts liés à des persécutions politiques, liés à des régimes autoritaires, liés au nazisme évidemment en particulier. Comment ceci va être possible en l'espace d'une dizaine d'années, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années, disons du début des années 30 jusqu'au milieu des années 40. Alors certains historiens ont critiqué en disant « Ah oui, mais il n'apporte pas grand-chose, etc. » En tout cas, ce qui est intéressant dans sa démarche, et ça va se développer plus tard dans un livre qu'il va publier en 2017, c'est que il faut comprendre l'approche de Timothy Snyder. Timothy Snyder entre dans le champ historique avec un travail qui s'intéresse à l'histoire de la pensée politique. Et ça n'est pas rien, cette histoire, puisque c'est au fond un historien des idéologies. Mais ça reste un historien, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux idéologies, à la manière d'un historien comme Michel Foucault, par exemple. Il s'intéresse aux idéologies sans perdre de vue la manière dont celles-ci s'incarnent dans des corps qui ne sont pas forcément des corps, d'ailleurs, idéologisés, si on peut le dire, mais des corps profondément étatisés. Des corps étatisés, comme le dit le sociologue Pierre Bourdieu. Bourdieu s'intéresse à la façon dont les institutions s'incarnent dans des corps, dont la bureaucratie, dont notre manière de suivre des règles, et là, mais beaucoup des règles que nous suivons sont des règles qui sont soit culturelles, soit imposées ou distillées par des appartenances institutionnelles, n'est-ce pas ? On remplit des formulaires en permanence, on fait des candidatures pour entrer dans des écoles, dans des emplois, dans des protocoles de crédit bancaire, ou des assurances santé, etc., etc. Donc toute cette institutionnalisation de la vie, et c'est ça qui intéressait les sociologues comme Pierre Bourdieu, mais c'est aussi ça qui intéresse les historiens qui se penchent sur la façon dont les idéologies ont un rôle dans notre vie, même lorsqu'on n'est pas politisé, ou même lorsqu'on n'a pas la force de conscience d'adhérer à une idéologie. Bref, ce sont des historiens de la culture. La culture, c'est ça. La culture, c'est l'obéissance à des règles qui ne sont pas forcément des règles consciemment imposées par l'extérieur ou consciemment imposées à soi. Donc le travail de Timothy Snyder porte sur la tendance à voir les crimes des années 30 et des années 40 en Europe comme simplement des effets de régulation politique, des lois en quelque sorte, qui sont renforcées par des policiers ou par des miliciens, par des régimes politiques autoritaires. Mais comment on adhère à tout cela ? C'est ça sa question. Comment des individus, y compris des individus simples, des individus qui n'ont pas forcément même conscience de l'importance historique de ce qu'ils vivent, comment des individus vont se trouver à être volontairement ou involontairement des participants à tout un système qui va faire, encore une fois, c'est un grand mystère qui intéresse Timothy Snyder, qui va faire que, entre les années 30 et les années 40, 13 millions de personnes vont mourir par suite de persécutions politiques directes ou indirectes. Donc la grande guerre civile européenne, dont parlait Eric Hobsbawm. Alors ça devient intéressant tout ceci parce que, évidemment, Bloodlands paraît aux États-Unis en 2010, mais ça va nous mener à un livre qu'il publie en 2017 et qui va le consacrer comme un auteur star. Timothy Snyder est un de ces rares intellectuels universitaires qui est devenu une véritable référence avec un livre. Qui va devenir un best-seller. Et ce livre, alors je ne sais pas s'il est même traduit encore en français, ce livre s'appelle On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Sur la tyrannie, 20 leçons au sujet du 20e siècle. Une extension de ce travail par Timothy Snyder va consister à la publication de thèses, critères selon lesquels nous avons affaire à une tyrannie, critères qui permettent d'être attentifs aux signes d'une dérive tyrannique. Alors voici le premier critère, et je vais finir avec ça. Le premier critère dit « Faites attention au système dans lequel il n'y a qu'un seul parti politique ». Et Timothy Snyder donne ce conseil, soutenez les systèmes où il y a plusieurs partis, et en particulier des partis qui défendent le principe de la démocratie électorale. Il indique aussi, N'hésitez pas à voter, bien sûr, mais votez aussi et notamment à toutes les élections, y compris les élections locales, tant que vous pouvez le faire. Il donne aussi un conseil, n'excluez jamais de vous présenter vous-même aux élections. Il ajoute récemment que la façon dont Donald Trump a tenté de rester au pouvoir en 2021 a été empêchée par une élection. Et que sa tentation était évidemment de créer et de s'instituer comme leader d'un parti unique. Donc voilà, la première thèse, attention au système du parti unique. Deuxième thèse, deuxième conseil, attention aux groupes paramilitaires. Donc l'idée des groupes paramilitaires, c'est quand des hommes, la plupart du temps ce sont des hommes, armés, commencent à faire la loi à l'intérieur d'un pays, quand ils commencent en n'étant pas forcément affiliés institutionnellement à un corps institutionnel dans ce pays, donc en n'étant pas la police, mais quand ils commencent à porter des armes et à porter des uniformes en défendant un leader. Là, pour Timothy Snyder, c'est un signe qu'il faut faire attention. Et il ajoute récemment que ce signe est déjà quelque peu présent dans la manière dont Donald Trump a essayé d'encourager le public à intimider les 12 millions de personnes que Donald Trump et son vice-président J.D. Vance espèrent pouvoir exclure des États-Unis sous la raison qu'il s'agit de sans-papiers. Attention donc à la violence paramilitaire, aux dénonciations et à la violence publique. Ça, c'était donc le deuxième point, le deuxième conseil. Attention aux paramilitaires et au paramilitarisme. Troisième point, si vous devez être armé, et là, nous sommes vraiment aux États-Unis, si vous devez être armé, nous dit Timothy Snyder, faites-le avec une grande prudence. Sachez que le fait d'être armé peut mener à des explosions de violence qui peuvent impliquer des policiers et des soldats et que ça peut déclencher des réactions en chaîne et de la violence en chaîne. Alors là aussi, Timothy Snyder souligne le fait que sous Donald Trump, il y a des tentations, il y a des tendances, il y a des groupes au sein des équipes qui sont proches de Donald Trump qui envisagent de modifier la relation entre les forces armées, donc la police, les détenteurs de l'autorité de la loi officielle, et le public. L'utilisation massive des armes à titre privé aux États-Unis et la façon dont ceci pourrait être instrumentalisé et détourné dans des formes d'explosion de violence incontrôlée. Quatrième conseil, quatrième règle, stand out. Je le cite en anglais. C'est l'idée de se lever, de se dresser contre l'oppression. Et Timothy Snyder nous dit quelque chose précisément par quoi j'avais introduit cette chronique, à savoir qu'il faut s'exprimer. Et l'idée que s'exprimer, c'est exercer une forme de liberté, donner son avis, engager la conversation, prendre le risque de le faire, c'est un espace en vérité extrêmement précieux dans la société. Et que si on se refuse à le faire lorsqu'on ressent le besoin de le faire, eh bien à ce moment-là, il y a un risque beaucoup plus grand. En d'autres termes, Timothy Snyder nous dit qu'il y a plus de risques à ne rien dire quand on n'est pas d'accord qu'à dire qu'on n'est pas d'accord. Mais la clé, évidemment, c'est que lorsque on s'autorise à dire qu'on n'est pas d'accord, il faut construire des alliances et qu'on ne peut pas être seul à exprimer son désaccord. Alors il dit que ça commence par des petites choses. Ça peut commencer par le fait de mettre un autocollant sur le pare-choc de la voiture en exprimant une opinion politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'encouragement ici, c'est l'encouragement à l'expression publique et à l'expression politique. Une sorte de, non plus de défense de la liberté d'expression, mais d'action, d'une liberté d'expression comme une liberté d'action qui crée un espace qui est en fait aussi l'espace de la liberté universitaire, de la liberté de recherche, de la liberté de création, de la liberté de création artistique et qui évidemment est la clé de voûte de l'enseignement et la clé de voûte de l'art et la clé de voûte des médias. Le fait de, comme je le disais dans l'introduction, s'autoriser à parler. Et s'autoriser à parler face au risque qu'il y a à se censurer soi-même et à ne pas le faire, qui, encore une fois, Snyder nous dit, c'est un risque plus grand, ne pas parler, que parler. Cinquième conseil, croyez en la vérité. Il est lié au précédent. La liberté, c'est aussi la liberté d'affirmer quelque chose qui est, à défaut d'être la vérité en général, quand c'est possible, c'est magnifique, vérifier ses sources, cultiver l'art des faits, de l'établissement des faits, questionner tout ce qui peut sembler illusoire ou faux dans la société, faire ses propres recherches, forger son propre avis, etc., etc., mais surtout cultiver la vérité dans ce contexte. Parce que l'hypothèse de Timothy Snyder, c'est qu'à partir du moment où on abandonne les faits, on abandonne la liberté. Si plus rien n'est vrai, si on a le droit de critiquer tout ce qui est vrai et de remplacer tout ce qui est vrai par des fantaisies, alors il y a un risque que ceux qui ont accès au micro, ceux qui ont l'argent, vont pouvoir répandre des fausses nouvelles qui vont écraser la vérité, écraser les faits derrière un gigantesque spectacle. Et donc c'est aussi un conseil qui dit « faites attention à la politique spectaculaire, faites attention aux shows télévisuels, faites attention aux déflagrations sur les réseaux sociaux » lorsqu'elles ne sont pas ancrées dans un établissement patient des faits. Toute chose, encore une fois, que fait le système d'éducation, toute chose que font les artistes, toute chose que font tous ceux qui osent exprimer leur avis de façon argumentée. C'est l'idée que l'absence de vérité fait qu'à un moment ou un autre, on risque toujours de basculer dans des formes d'autoritarisme. Et enfin, le dernier point proposé par Timothy Snyder, c'est cultiver le langage. Soyez gentil avec le langage. Faites attention aux paronomases, comme nous le disait un historien des guerres de religion, Jérémy Foy, que j'avais cité dans une précédente chronique. Attention à la surutilisation du mot terrorisme, par exemple, qui est surabondant dans le langage de Donald Trump depuis quelques semaines. Alors voilà, je vais terminer cette chronique en rapportant justement une nouvelle des faits. Et cette nouvelle, ces faits, nous sont communiqués par le journal de l'université de Yale où enseigne Timothy Snyder jusqu'à la fin de ce semestre, jusqu'à la fin de ce printemps 2025. En effet, le 27 mars 2025, dans le Yale Daily News, qui est le journal quotidien de l'université de Yale, de cette célèbre université, le 27 mars, on apprenait que Timothy Snyder et son épouse, qui est aussi historienne, Marcy Shore, avaient décidé de quitter Yale pour le Canada. À partir de septembre, ils enseigneront dans une université à Toronto, au Canada. Dans l'article, on apprend en particulier, et c'est Marcy Shore, l'épouse de Timothy Snyder, qui s'exprime, que depuis 2 ans, ils avaient envisagé de quitter les États-Unis, ce couple d'historiens, dont Timothy Snyder, et qu'ils ont finalement dû se résoudre à le faire à cause du climat politique actuel. Et je cite Marcy Shore. Oui, ça c'est un fait. Elle dit « Nous avions beaucoup réfléchi et nous pensons maintenant que l'Amérique est en train de descendre dans le fascisme. » Voilà pourquoi ils sont partis des États-Unis. California, to my sweet home, Chicago.